Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la nuit de la vieille Europe dirigé par Patrick PL. Émission préenregistrée le 16 juin 2015 et diffusée pour la première fois mardi 23 juin 2015 de 21h30 à 23h. Il est également diffusé jeudi 25 de 21h30 à 23h également, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck et par Benoît. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission car elle était préenregistrée, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Chroniques de la Vieille Europe. Alors, une émission un peu exceptionnelle car mes fidèles chroniqueurs Philippe Christel et Pascal Essérick sont absents et que cette émission est enregistrée et que vous ne pourrez pas intervenir comme d'habitude par téléphone. Alors, ce soir, le sujet, c'est la russophobie. Nous avions déjà abordé ce thème avec l'universitaire Jean-Robert Ravio au début de la crise ukrainienne. Mais cette fois-ci, nous allons un peu plus approfondir le sujet avec notre invité Guy Mettant, qui vient de sortir aux éditions des Sirtes, Russie-Occident, une guerre de 1000 ans, avec comme sous-titre la russophobie de Charlemagne à la crise ukrainienne. Bonsoir Guy Mettant.
Bonsoir.
Et merci d'être sur les antennes de Radio Courtoisie. Alors, pour vous présenter à nos auditeurs, vous êtes suisse et journaliste de formation, ancien rédacteur en chef de la Tribune de Genève, et vous êtes maintenant député au Grand Conseil du canton de Genève et membre du Parti démocrate chrétien.
Absolument. Non, voilà, c'est parfait.
C'est parfait. Alors, ma première question sur votre livre, c'est, j'ai cherché, ça c'est mon habitude, j'ai cherché sur Wikipédia le mot russophobie, et après une définition du mot, vous avez un chapitre sur la russophobie par pays, et c'est divisé en trois parties. L'Ukraine, la Pologne, Pays-Baltes, Finlande, Hongrie, Roumanie, Géorgie. Et c'est marrant parce qu'il n'y a pas une ligne sur l'Occident, comme si la russophobie occidentale n'existait pas. Et si on analyse les pays cités, ils correspondent principalement aux anciens pays du bloc de l'Est. Une russophobie rationnelle, vu le poids de l'histoire depuis 45, nous comprenons facilement leur inquiétude, comme si la russophobie était forcément logique, une façon déjà de rendre les Russes coupables de quelque chose, guillemettant.
Oui, tout à fait. Je vois effectivement l'article de Wikipédia auquel vous faites allusion, parce que j'y suis moi-même allé regarder, évidemment, quand j'ai commencé à travailler sur ce livre. Ça m'a surpris aussi parce que effectivement, c'est assez logique, la russophobie qui s'est développée dans les Pays-Baltes et en Pologne surtout, en Tchéquie aussi, mais un petit peu moins maintenant. Les Tchèques ont un peu changé. Les Hongrois ont également évolué. Mais c'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, cette russophobie était particulièrement développée dans les anciens pays de l'Est dominés par l'Union soviétique. Pour une raison assez simple, moi j'en parle de façon tout à fait marginale dans le livre, pour une raison assez simple, vous l'avez dit, c'est le ressentiment après la chute de l'Union soviétique et les 50 ans de domination soviétique. Ça c'est la première chose à ce ressentiment, c'est ajouté un problème d'identité qui a été assez bien analysé par différents universitaires scandinaves, comme par exemple Iver Neumann, qui ont essayé de comprendre pourquoi dans ces pays-là, cette haine, c'est peut-être un mot trop fort, cette détestation de la Russie avait pris tant d'importance. Et en fait, c'est parce que ces pays se sentaient européens, mais ont été privés d'Europe pendant longtemps et ont voulu surcompenser cette privation, au fond, en dressant un portrait, en s'opposant à la Russie, en faisant le symbole du mal, le symbole de la puissance maléfique, etc., pour pouvoir se rapprocher encore plus vite de l'Union européenne et aussi obtenir les crédits qui allaient avec une adhésion. Donc c'est en ce sens-là que la russophobie est constitutive de l'identité, d'une partie de l'identité de ces pays. C'est le cas en tout cas en Pologne et dans les Pays-Baltes.
Alors, vous êtes quasiment l'un des premiers, en tout cas en Europe et en tout cas en langue française, à étudier le phénomène. Ce qui n'est pas le cas des pays anglo-saxons et principalement américains. Comment expliquez-vous cette anomalie en Europe ?
Oui, ça c'était effectivement aussi une autre surprise. On fait comme si la russophobie justement n'existait pas en Europe occidentale, en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne notamment, alors qu'en fait elle existe depuis la fin du XVIIIe siècle et que ni les Français ni les Allemands s'y sont intéressés. Ils contestent même l'idée d'une russophobie française ou allemande, alors que les seuls à s'être penchés sur le problème sont les anglo-saxons. Ça a commencé avec un anglais qui s'est intéressé à la russophobie anglaise, laquelle a démarré après 1815, après les guerres napoléoniennes. Et puis ça a continué avec les américains qui sont au fond les seuls, les universitaires américains, universitaires minoritaires d'ailleurs, mais qui sont les seuls à s'être intéressés à la russophobie allemande notamment, et puis naturellement aussi à leur propre russophobie, la russophobie américaine. Je montre que ça, il s'agit d'un phénomène typiquement occidental. On trouve pas de russophobie en Chine ou au Japon, alors que les Chinois et les Japonais sont battus à plusieurs reprises avec les Russes. Il y a eu plusieurs guerres entre la Chine et la Russie. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale qui a opposé les Japonais et les Russes. Mais aucun de ces deux pays, malgré les frictions frontalières, n'a développé de russophobie. Alors qu'un pays qui a jamais eu de guerre avec la Russie, qui sont les États-Unis, eux sont les plus russophobes au monde. Donc il y a des paradoxes assez amusant qu'on peut expliquer, enfin que j'explique dans le livre.
Oui, on va voir. Le tiers-monde non plus, il n'y a pas vraiment...
Non, et plus on descend vers le sud, plus la sympathie pour la Russie augmente.
Alors, vous commencez à vous donner quelques exemples. Dans votre premier chapitre, vous faites une comparaison des crimes occidentaux avec ceux de la Russie. Et dans une de vos comparaisons, vous expliquez, c'est peut-être anecdotique, mais ça montre bien déjà la façon que la presse et la politique en Europe se fait. Vous dites, quand le journaliste italien Roberto Saviano, qui est menacé de mort par la mafia, on n'accuse pas directement le gouvernement italien, mais quand c'est la journaliste Anna Politkovskaya, c'est forcément le Kremlin. C'est-à-dire qu'il y a une façon de présenter les choses, que ça soit dans la presse ou chez nos politiques, c'est que d'un côté, les Russes, c'est toujours le pouvoir central qui doit être quand même coupable de quelque chose.
C'est-à-dire que depuis deux ou trois siècles, on a un archétype du méchant russe despotique, expansionniste, corrompu, brutal, etc., etc., qui a été développé, je dis, depuis le XVIIIe siècle. Et dès qu'il est question de Russie, on applique le poncif sans réfléchir. Et c'est typique, effectivement, dans ses allusions à la mafia. Tout ce qui est négatif, qui concerne la Russie, est forcément inspiré par le Kremlin, comme si c'était Monsieur Poutine qui lui-même décidait de tout ce qui était négatif. Alors que ce raisonnement ne joue pas, effectivement, pour les Italiens. On n'accuse pas le gouvernement italien. Bien qu'il y ait des collusions qui ont été établies, mais on n'accuse pas systématiquement le gouvernement italien d'être derrière la mafia sicilienne ou la Camorra napolitaine. Et ce qui me gêne profondément, c'est au fond ce double standard, cette manière complètement différente de juger d'un côté la Russie et de juger de l'autre côté la réalité dans nos propres pays, alors qu'on devrait appliquer les mêmes critères.
Alors, autre anomalie que vous pointez du doigt, c'est que en 89, les pays de l'Est se libèrent. On peut dire que ça s'est fait sans violence. Quand la France et l'Angleterre vont libérer les pays coloniaux, leur pays, leur colonie, il va avoir des guerres, il va avoir des guerres civiles. Et pourtant, on a l'impression que dans cette histoire, c'est les Russes qui ont été les méchants, et on oublie nos propres crimes.
Oui, exactement. On oublie que les inventeurs des camps de concentration n'ont pas été les nazis, mais bien les Anglais en Afrique du Sud, à la fin du 19e siècle. On oublie que les premiers maîtres de l'épuration ethnique, ça n'a pas été les Serbes en ex-Yougoslavie, mais bien les États-Unis contre les tribus américaines au 19e siècle. tout ça est passé sous silence, alors qu'on ne cesse de reprocher aux Russes leurs crimes, entre guillemets, qui ont été commis à la même époque. Donc on pardonne d'un côté aux Américains d'avoir éradiqué les Espagnols dans les États du Sud et les Indiens dans les autres, dans les États de l'Ouest, mais on revient sans cesse sur, entre guillemets, les crimes qu'auraient commis le tsar ou Staline contre ces peuples-là dans la même époque. Staline a massacré effectivement des minorités, mais les Français ont massacré des Malgaches en 1947, ça a été une tuerie qui n'est pas rappelée. La même chose en Algérie en 1954, je crois, ou même déjà à la fin de la guerre en 1945. Donc voilà, je suis pas là pour reprocher aux Français leur comportement, mais simplement c'est de nouveau ce double standard, cette double lecture qui est absolument incroyable de la part d'Occidentaux qui nous prétendent rationnels, rationalistes, héritiers des Lumières. Où sont les Lumières dans cette manière de voir ?
Alors, le russe est sanguinaire, mais la presse occidentale, on le disait tout à l'heure, a un rôle important. Parlez-nous de cet exemple qui est typique, qui a été le dramatique accident du Berlingen. Je rappelle les faits, c'est la collision d'un Tupolev avec un Boeing de la société DHL. Et alors la première réaction de la presse, c'est la faute des Russes, c'est l'incompétence du pilote qui comprend pas la tour de contrôle en anglais.
Absolument. Effectivement, il y a toujours des raisons de reprocher aux Russes leur comportement, mais pour bien montrer la force des poncifs, la force des préjugés et au fond la stupidité de ces préjugés anti-russes, j'ai choisi dans le livre 4 cas où on ne pouvait absolument pas accuser la Russie de quoi que ce soit, d'aucune responsabilité. Et le premier de ces cas, c'est effectivement cette catastrophe du Berlingen. En 2002, deux avions se percutent dans le sud de l'Allemagne, juste au nord de la Suisse. Un avion des Bashkirian Airlines, piloté donc par des Russes, et puis un avion de DHL, un Boeing de DHL, piloté par des Européens, enfin bref. À minuit moins le quart, l'accident arrive, je crois, 23h35, dans les minutes qui ont suivi la collision. Et bon, en plus, comble de malheur, dans l'avion russe, étaient à bord 72 enfants avec leurs accompagnants. Donc c'était un drame évidemment épouvantable. Tous les enfants étaient morts, donc ça créait une grande émotion sur la toile, sur les réseaux sociaux, évidemment dans les agences. Mais dans les minutes qui ont suivi l'accident, on a commencé à accuser le pilote russe en disant qu'il avait bu, que l'appareil était pas sain, que de toute façon il s'était opéré par la mafia. Tous les arguments habituels anti-russes se sont pointés en filigrane, se lisent en filigrane dans les dépêches. Et 48 heures après, on a découvert que le russe parlait parfaitement l'anglais, qu'il avait obéi aux consignes, que l'avion était impeccable, que tout avait bien fonctionné, mais que la principale responsabilité était due aux contrôleurs du ciel suisses et allemands. Voilà la réalité, la triste réalité. Et c'est comme ça. Dans la guerre de Géorgie, on lit Libération, on lit la presse occidentale, guerre de Géorgie l'été 2008, une investigation par le Conseil de l'Europe et l'Union européenne, qui ne sont pas soupçonnables d'être pro-russes, hein, on ne peut pas le dire, a prouvé que c'était les Géorgiens de M. Saakashvili qui avaient attaqué. Mais non, on continue à dire que ce sont les Russes. Donc, contrairement aux faits établis, on peut lire ça sur le site internet du Conseil de l'Europe. Donc, vous voyez, les faits n'ont pratiquement pas d'importance, tellement sont forts les préjugés anti-russes. Je trouve ça lamentable de la part d'Européens qui nous prétendons intellectuellement supérieurs aux autres.
Oui, parce que c'est vraiment la caricature. Dans sa forme maximum, c'est l'incompétence des Russes, et c'est souvent l'argumentation ultime. Alors, pour un pays qui a mis quand même le premier homme dans l'espace, c'est quand même sidérant. On en parle comme un pays du tiers-monde.
Oui, parce qu'effectivement, il y a des grandes disparités sociales. Après l'éclatement de l'Union soviétique, le PIB, le produit national brut de Russie, s'est effondré de 43%. Donc, je veux dire, c'est divisé en deux, quasiment. Donc, il y a effectivement des zones de paupérisation en Russie. Mais ça n'est en tout cas pas un pays du tiers-monde, puisque justement, comme vous le rappeliez, c'est quand même le pays de l'industrie spatiale qui envoie, malgré tous les fusées dans la station orbitale internationale, etc., qui est à la pointe de certains, dans plusieurs domaines scientifiques. Mais c'est toujours ce cliché du russe arriéré, du russe barbare, du russe qui veut nous manger, qui veut nous envahir, etc., qui est véhiculé depuis des siècles et des siècles, depuis Napoléon. Depuis que Napoléon, en 1812, a mandaté un certain monsieur Le Sûr pour justifier son invasion de la Russie, lequel a établi, suite à une construction de Louis XV, un faux testament de Pierre le Grand, ce faux testament prétendant que la Russie voulait faire main basse sur l'Europe. Et c'est depuis lors que cette image de la Russie, d'une Russie expansionniste, se perpétue, alors même que c'est le contraire qui se produit. L'OTAN n'a fait que de progresser vers la Russie, alors que la Russie, depuis 25 ans, n'a absolument pas bouger, n'a absolument pas progressé du côté européen, du côté de l'Europe occidentale.
Alors, on reviendra tout à l'heure sur l'aspect historique qui est passionnant dans votre livre. Je rappelle aux éditeurs que je reçois Guy Mettant. C'est Mettant qu'on dit ou Mettant ?
Mettant, oui.
Guy Mettant, pour son livre « Russie-Occident, une guerre de 1000 ans, la russophobie de Charlemagne à la crise ukrainienne » aux éditions des Sirtes. Alors, vous donnez énormément d'autres exemples de cette manipulation. Il y a eu Beslan, la guerre de cette île, les jeux de Sochi. Et en vous lisant, j'ai l'impression qu'on était presque moins critique et moins scrupuleux qu'à l'époque soviétique.
Oui, c'est d'ailleurs juste encore une anecdote, puisque vous avez mentionné Sochi, pour montrer aussi la force de ces préjugés. Juste avant les JO de Sochi, la presse occidentale s'est déchaînée contre la Russie, sans aucune raison, puisque c'était les Russes qui avaient tout payé. Peu importe, s'ils avaient décidé de mettre des milliards dans ces JO, ça les regardait eux, mais pas nous, on n'avait rien à dire. Mais non, on leur a reproché toutes sortes de choses, même le fait que les robinets ne marchaient pas dans un hôtel journaliste.
Clandestins, comme s'il n'y en avait pas sur nos chantiers.
Exactement. Donc tout a été dit, mais il y a un journaliste autrichien qui, constatant un peu cette espèce de harcèlement, s'est dit mais ça va pas, et il est descendu dans une rue de Vienne juste en bas de chez lui. Il a pris une photo d'une rue un peu dévastée, éventrée, avec des travaux, etc., et puis il a mis ça sur Twitter, et il a légendé sa photo Sochi 2014, sous-entendu Sochi avec des travaux pas finis, des rues éventrées, etc. Il a eu 250 retweets après ça. Il a eu des téléphones de CNN et de médias américains qui voulaient racheter sa photo pour justement bien stigmatiser la Russie. Puis après une douzaine d'heures, il a dit, écoutez les gars, non, mais écoutez, je rigolais, ça n'est pas du tout à Sochi. La photo que j'ai mise, c'est la rue de Vienne en bas de mon immeuble. Il n'y a aucun journal, aucune personne qui avait retweeté son truc qui l'a reprise, parce qu'évidemment, ça allait contre le cliché anti-russe. Oui. Donc voilà, on en arrive à des aberrations comme ça. Et puis, concernant votre question... Oui,
sur l'Union soviétique, en fait, j'ai l'impression qu'on est plus critique aujourd'hui qu'à l'époque de l'Union soviétique.
Et ça, c'est intéressant. C'est un Américain, un ancien soviétologue du président Bush, de Reagan et de Bush père, Stephen Cohen. Donc, c'est pas quelqu'un qu'on peut soupçonner d'une russophilie exacerbée. Donc, est anti-soviétique, mais qui vit toujours et qui raconte que, pour lui... La pensée unique dans les médias dominants est si forte qu'aux États-Unis, on n'arrive plus à s'exprimer, et qu'au fond, la liberté d'expression est pire maintenant qu'à l'époque soviétique, que pendant la guerre froide, lui-même n'a plus accès au New York Times, aux grands médias, parce qu'il tient sur la Russie un discours différent, un discours critique. C'est invraisemblable. Et là, vous avez tout à fait raison, c'est une intuition parfaitement correcte. On revient à une forme de maccartisme qui n'ose pas dire son nom, quoi.
Alors, sur l'affaire ukrainienne, sujet que nous avons abordé sur Radio Courtoisie depuis des mois, et les auditeurs le savent très bien, soyons clairs, nous sommes plus dans le... On est plus dans le questionnement que dans le début d'une réponse. Mais vous faites remarquer que ce questionnement sur cette crise ukrainienne est quasiment invisible chez les journalistes quand on parle du rôle des États-Unis et des Européens. C'est-à-dire que là...
Ce que je reproche à mes confrères, et je vois aussi beaucoup, moi je dirige le Club Suisse de la Presse, je vois aussi beaucoup d'ONG, de, toujours reçoit des Ukrainiens, des Russes, des, vraiment des gens du monde entier, mais ce qui me frappe dans la couverture de, des événements ukrainiens, c'est au fond le côté absolument unilatéral des grands médias européens et américains. Quand on lit un article du Monde, de Libération, enfin pour... même du Figaro, pour citer ces grands titres français-là, on constate que toutes les sources sont toujours les mêmes. C'est toujours des experts qui sont à Bruxelles ou proches de l'OTAN. Quand on va creuser, on voit qu'ils travaillent toujours pour des think tanks américains ou qui ont des noms français ou européens, mais qui en réalité sont des sous-marins ou proches des think tanks néoconservateurs américains. Et donc, en fait, il y a toujours un seul camp qui parle. Moi, quand j'ai commencé le journalisme, on m'a toujours appris à confronter les idées, aller voir le pour et le contre, le tenant de la théorie A, le tenant de la théorie B, me faire ma propre opinion, en tout cas de la présenter au lecteur ou à l'auditeur pour que celui-ci puisse se faire sa propre opinion. Ce n'est pas à moi, comme journaliste, de la lui dicter. Et ça, c'est totalement absent. Ça, c'est devenu totalement absent de notre presse et c'est évidemment tout à fait regrettable. Et la couverture des événements ukrainiens obéit maintenant à cette, oui, à cette manière de faire qui est, que personnellement je trouve scandaleuse. On ne pose jamais les questions. Dans l'affaire du crash du MH17, du vol d'un Malaysian Airlines, on n'a jamais été, on donne jamais le point de vue russe. Je ne sais pas qui a lancé le missile.
C'est ça,
on ne sait pas. Mais quand on ne sait pas, la moindre des choses, c'est aussi de donner le point de vue inverse. Et non pas de matraquer en disant c'est de toute façon les Russes ou les séparatistes ou ce camp-là. La moindre des choses, c'est de donner l'autre point de vue. Ça n'est jamais donné. Quand on a la couverture de ce qui se passe à Donetsk, on a toujours, systématiquement, le point de vue, le communiqué du gouvernement ukrainien, de l'armée ukrainienne, de tout ce que des ONG ukrainiennes, etc. On n'a pratiquement jamais le point de vue russe. Et je montre aussi dans la construction du vocabulaire comment, au fond, on construit un discours anti-russe par des éléments de langage qui, au fond, accréditent ou veulent accréditer la thèse du méchant russe et du gentil ukrainien, du gentil américain qui vient, comme à la fin du 19e siècle, remplir sa mission civilisatrice et démocratique, apporter le bonheur au peuple, ce qui n'est absolument pas vrai. On apporte des armes, des tanks, et on va créer un conflit au cœur de l'Europe qui va durer des années.
On va juste faire une légère pause pour se retrouver d'ici à peine une poignée de minutes et pour retrouver Guy Mettant pour son livre Russie-Occident, une guerre de 1000 ans. Donc restez sur Radio Courtoisie. On va peut-être passer sur le fond du problème de cette russophobie. Vous dites très justement que l'Occident ne comprend pourquoi un peuple qui lui ressemble, en gros un peuple blanc, qui lui, mais qui ne lui ressemble pas complètement culturel, est-ce que la Russie perturbe, vous dites, la Russie perturbe l'image de l'Occident ?
Oui, parce que effectivement, les Russes paraissent comme nous, paraissent voilà, c'est des, souvent des blonds aux yeux bleus. Enfin bref, paraissent avoir le même physique, le même comportement, aussi la même culture avec le christianisme. En tout cas, depuis la conversion en 988, donc depuis plus de 1000 ans. Et puis en réalité, ils sont si différents. Et c'est vrai que cette double appartenance nous perturbe et fait qu'on les comprend. Qu'on les comprend pas bien. C'est vrai que les Russes, pour moi, sont des Asiatiques habillés en occidentaux. Ils ont une double, ouais, je crois qu'ils ont une double appartenance, une double culture, et que c'est aussi ça qui fait leur charme et qui fait leur force, finalement. Puis c'est aussi pour ça qu'on les aime. Il y a une russophobie que j'analyse et je dénonce dans mon livre, mais il y a aussi une russophilie. Il faut être honnête.
Oui, les gens sont passionnés.
Et la France a été très russophobe au 19e siècle. Elle a aussi connu des moments très très forts de russophilie. Mais donc c'est vrai que les Russes, pour ça, nous déstabilisent. Moi, je fais remonter ça effectivement à Charlemagne et au fond au schisme entre l'orthodoxie et le catholicisme au XIe siècle.
Alors justement, c'est le rôle de Byzance qui a été important à ce moment-là.
Oui, si vous voulez, alors évidemment la Russie n'existait pas, la Russie a commencé à exister à la fin du Xe siècle, au moment de sa conversion, de la création de la Russie qui est Vienne au milieu du Xe siècle. Mais avant, 200 ans avant à peu près, avec Charlemagne, c'est là qu'est apparu le premier conflit géopolitique entre d'un côté l'Occident, ce qui est devenu l'Occident après, et l'Orient, qui à l'époque était incarné par Byzance, les Byzantins, les Gréco-Byzantins. Et au fond, Charlemagne, en créant son empire, l'a fait contre l'Empire byzantin, qui était l'héritier légitime de l'Empire romain. Après la chute de Rome en 476, eh bien, c'est Byzance qui était l'Empire romain. La preuve, c'est que les Arabes appellent les Grecs des Roumes, des Roumis, des Romains, et non pas des Byzantins. Donc, ça montre bien que c'était Rome qui se trouvait à ce moment-là à Constantinople. Et donc, cette rivalité, ça a été la première rivalité, on peut dire, entre voilà, l'Occident et le monde gréco-oriental de l'autre. Et le schisme est venu se greffer là-dessus, parce que Charlemagne a voulu donner à ces nouveaux États une identité, on y revient, une identité politique, idéologique, culturelle, religieuse, en changeant le credo chrétien, en changeant la procession du Saint-Esprit. Enfin, c'est assez compliqué. En changeant de certaines dispositions, au fond, liturgiques et du credo chrétien, qu'il a imposé à ses États contre les Byzantins, contre l'Église primitive et de façon autoritaire. Charlemagne n'était pas du tout gentil garçon à la barbe fleurie. C'était pour moi un Staline qui a réussi. Parce qu'il contrôlait tout, il contrôlait ses évêques, il contrôlait absolument tout pour qu'on applique sa nouvelle idéologie, son nouveau credo jusqu'au fin fond de son empire. Et quand le schisme s'est produit, il s'est produit un peu plus tard avec le Deuxième Empire, c'est-à-dire la création du Saint-Empire romain germanique, plus tard en 962. C'est exactement le même coup qu'avec Charlemagne. Le pape se trouve en difficulté à Rome, menacé par les Lombards qui étaient dans le Milanais, et puis ou menacé par les Romains qui contestaient au fond le pouvoir papal. Et il avait appelé Charlemagne à la rescousse en 799, et là il a appelé de nouveau Othon à la rescousse en 961. Et les deux Allemands, Charlemagne et Othon, sont intervenus en Italie, mais à une seule condition, c'est que le pape les couronne empereur. Ce qu'il a fait en l'an 800 pour Charlemagne et en 962 pour Othon, et c'est là qu'est né le Saint-Empire romain germanique. Et lorsque les papes résistaient à cette réforme liturgique, parce que ils étaient conscients que c'était les conciles qui avaient décidé de façon démocratique. À l'époque, le pape n'était qu'un primus inter pares. C'était, il n'avait pas ce pouvoir qu'il a aujourd'hui. Et le schisme est né dès que les empereurs germaniques ont réussi à imposer sur le trône de Saint-Pierre des papes allemands. La première décision du premier pape allemand a été d'accepter les réformes de Charlemagne, donc le filioque dans la procession du Saint-Esprit, etc., et les réformes liturgiques, ce qui entraînait immédiatement le schisme avec le reste de la chrétienté, c'est-à-dire la chrétienté orientale, qui a refusé ce diktat et qui a dit « c'est pas comme ça qu'on fait, ça doit être un consul œcuménique qui décide et non pas un empereur ou un pape tout seul ». Et voilà comment est né ce premier...
Vous le dites bien, on a l'impression, avec le temps qu'on s'est battu, c'était le sexe des anges qu'on a changé, c'était un peu ridicule, c'était des vraies raisons politiques en fait.
C'était des vraies raisons politiques, c'est comme les guerres, les conflits religieux aujourd'hui, même avec l'islam, bon c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais l'islamisme et le fondamentalisme religieux, c'est aussi évidemment des rivalités politiques qui sont derrière. La religion est souvent qu'un prétexte. Et là, c'est typique. Dans cette affaire du schisme, c'est absolument typique. Et c'est ce qui a entraîné effectivement le schisme et au fond le conflit entre Byzance et Rome, entre les empereurs d'Allemagne et les empereurs byzantins. Et quand Byzance, quand Constantinople est tombée sous le coup des Ottomans en 1453, ce sont les Russes qui ont repris cet héritage byzantin, sur le plan politique, mais aussi sur le plan religieux. C'est pour ça qu'on a, c'est depuis lors que Moscou se dit c'est la troisième Rome, que le patriarche. Et cette, les préjugés anti-byzantins qui s'étaient développés pendant tout le Moyen-Âge, se sont reportés à partir du XVe siècle sur la Russie. Et on retrouve les mêmes préjugés qu'aujourd'hui, despotisme, barbarie, ils ne sont pas civilisés parce qu'ils ne savaient pas le latin. Les théologiens du pape disent que les Grecs ne sont pas civilisés parce qu'ils parlent grec et ils ne savent pas le latin. Alors qu'historiquement, c'est bien que le latin est héritier du grec et non pas l'inverse dans l'histoire. Donc c'est vraiment amusant de voir comment on monte, on réécrit l'histoire a posteriori pour essayer de discréditer l'autre. Et c'est comme ça, au fond, que cette russophobie a réapparu à l'époque moderne à partir du XVIIIe siècle, sur ce terreau de préjugés issus du schisme et des différences religieuses.
Comment on est ce que vous appelez les croisades européennes contre l'orthodoxie russe
Oui, c'est effectivement, quand on reste un peu dans le Moyen-Âge, on constate qu'effectivement, cette rivalité géopolitique issue de Charlemagne et ensuite ces rivalités religieuses se sont traduites par des croisades. Il y en a eu plusieurs. Les Polonais, ça date pas d'hier, la haine des Russes. Les Polonais appelaient déjà le pape à entreprendre des croisades contre les Russes schismatiques, hérétiques, etc., au XIIIe siècle, en 1240. Donc, c'est dire que ça fait déjà 8 siècles que les Polonais cherchent à en découdre avec les Russes. Et chaque fois que les Polonais ont été puissants, ils ont envahi Moscou en 1612, on l'oublie. Ils ont cherché à reconquérir la Russie en 1919. Donc, ces vieilles haine cuite et recuite vont dans les deux sens. Si on reproche aux Russes un expansionnisme, on ne voit jamais, en revanche, la poudre qui se trouve parfois dans notre œil. Et c'est ça qui est intéressant. Vu du côté russe, c'est flagrant. C'est toujours les Européens, c'est les Mongols, bien sûr, du côté asiatique, en 1215. Mais toutes les autres invasions sont toujours venues d'Europe de l'Ouest. Et les Russes n'ont jamais envahi personne. En 1945, je rappelle que s'ils ont occupé une partie de l'Europe de l'Est, c'était suite aux accords de Téhéran, de Yalta et de Potsdam, avec l'accord des Occidentaux. Ils n'ont rien fait au-delà des accords. Donc,
vous dites même qu'ils ont l'impression d'une sorte d'ingratitude, parce que Byzance a été quelque part... c'est eux qui ont arrêté certaines invasions.
Bon, ça c'est une théorie, c'est moi qui le dis, je suis pas sûr, bon, il faudrait maintenant approfondir. Mais si on regarde l'histoire... C'est effectivement ce qui s'est passé. Qui c'est qui a arrêté les invasions mongoles qui ont vraiment tout ravagé sur leur passage? Ceux qui les ont arrêtés, c'est d'abord les Russes, les Scythes, la Russie qui est Vienne, justement. C'est elle qui a absorbé dans ses steppes la progression mongole. Et donc, ce que je dis, et c'est aussi Byzance qui a résisté. Byzance n'est tombé que 2 siècles après l'invasion mongole. Alors évidemment, les Européens de l'époque sont aussi battus, mais ça n'a pas été les premiers. Ils sont battus quand les autres avaient déjà épuisé les armées mongoles, donc c'était plus facile à la limite. Et ce que je veux dire par là, c'est que si l'Europe médiévale a pu se construire, si on a pu construire des cathédrales et je dis développer l'amour courtois, la poésie, etc., c'est probablement grâce au fait que les Russes ont retenu les Mongols et les ont empêchés d'arriver jusqu'à Paris ou jusqu'à Londres. Et ça, on n'en est absolument pas conscient et on n'a aucune reconnaissance. Donc pendant qu'on était tranquillement à l'abri ici, les Russes, eux, supportaient 2 siècles de joug mongol. Et ça, je pense que l'Occident pourrait aussi leur en être reconnaissant a posteriori.
Alors, on a vu par Charlemagne, on va prendre maintenant, je dirais, par pays, on va prendre un pays qui nous intéresse, nous en tout cas, c'est la France. Et vous avez un chapitre sur la russophobie française. Alors, elle commence par Louis XV.
Elle commence avec Montesquieu. D'abord, les Français ont été russophiles. Avec Voltaire, ont été très russophiles. Mais déjà avec Montesquieu utilise la Russie comme un repoussoir, comme l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire, au fond. Parce qu'il dit, en Russie, il y a un pouvoir absolu et puis il n'y a rien entre deux. Il y a un peuple et un tsar qui a le pouvoir absolu, et lui était le partisan justement de la séparation du pouvoir, des contre-pouvoirs, etc. Donc il cite la Russie comme contre-exemple. Mais c'est pas, voilà, c'est une thèse, en même temps que Voltaire, c'est pas si grave. Mais enfin, il y a quand même le prodrome de quelque chose. Et puis là-dessus, Louis XV, la russophobie s'est développée avec les expansions coloniales européennes. Et la France avait des visées coloniales à cette époque. Et c'est Louis XV, effectivement, qui alliait des Polonais, et justement de l'aristocratie polonaise, qui, avec l'aide de Polonais, fabrique le faux testament de Pierre le Grand qui prétend que la Russie veut dominer toute l'Europe. On revient aux Polonais. Ouais. Et si ça se passe, c'est le cabinet noir de Louis XV, donc ça reste très confiné. Mais Napoléon ressort, le directoire l'avait déjà réutilisé, Napoléon réutilise ça et fait paraître l'ouvrage de propagande de Le Sûr en 1812, qui va lui servir au fond à justifier l'invasion de la Russie et de la Grande Armée en 1812-1813, avec l'échec qu'on connaît. Et puis ce faux testament va connaître une grande carrière. Il sera repris par les Anglais, parce que les Anglais, aussitôt qu'ils ont pu vaincre Napoléon grâce aux Russes, les Anglais, ils n'ont rien fait. Ils ont eu une petite bataille à Trafalgar, quelques marins, quelques navires coulés. Mais tous ceux qui ont supporté, au fond, la lutte contre Napoléon, c'est les Russes. Moscou brûlée, des centaines de milliers de morts lors de l'invasion, et c'est eux qui libèrent l'Europe, de nouveau, comme en 1945. Aussitôt que les troupes françaises sont battues, que font les Anglais? Ils se retournent contre leur allié de la veille. Dès 1815, ils tournent leur veste et ils s'attaquent à leur ancien allié russe. Et ils ressortent ce faux testament, ils le traduisent en anglais, etc., pour justifier leur propre russophobie. Mais la russophobie française, elle a une particularité. Elle va connaître son apogée avec Custine. C'est Custine qui, en 1843, publie...
Le baron Astoff de Custine, formidable. Comme voyage,
absolument. Publie ses relations de voyage, la Russie en 1839, et qui sera le sommet de la russophobie, traduit dans toutes les langues possibles, une quarantaine de langues. Et ça va être le monument de la russophobie, utilisé encore par les Américains, par le président Truman, lors du début de la guerre froide à la fin des années 40. C'est une russophobie qui a ce site particulier, c'est qu'elle est, c'est une russophobie libérale. Aujourd'hui, la France passe pas franchement pour un pays libéral, mais à l'époque, la France était à l'avant-garde du libéralisme économique et politique. Et au fond, les libéraux vont vilipender la Russie pour en faire, parce qu'ils en feront l'archétype justement du despotisme. du despotisme, surtout avec Nicolas Ier, après 1825, après la mort d'Alexandre. Et c'est là-dessus que se construit au fond cette russophobie française avec Custine, avec Tocqueville aussi, avec Guizot.
On reviendra encore Tocqueville. Il y a des idées. Mais le baron de Custine, c'est assez drôle ce que vous mettez. C'est que lui, il y a rien à sauver en Russie.
Ah non, rien du tout.
La seule chose à faire, c'est de les convertir au catholicisme. C'est leur seul moyen ce livre va être traduit en Angleterre, en Allemagne, partout. Quoi. C'est
absolument
incroyable.
Partout. Oui, tout à fait. Un best-seller absolument extraordinaire. Et encore, c'est Brzezinski, je crois qu'il recite dans la fin du XXe siècle. Donc
faudrait que je regarde ça. Ça m'intéresserait.
Donc c'est tout à fait extraordinaire. Il a été réédité récemment, en 2005, je crois, par Actes Sud, le livre de Custine. Non, chaque fois qu'il y a un problème avec les Russes, ou chaque fois que l'Europe a un problème avec les Russes, on réédite Custine. Et je dis, les Américains disent, ah oui, Custine explique Staline. C'est extraordinaire de voir qu'à un siècle de distance, ce Custine était tellement génial qu'il réussissait même à expliquer Staline.
Parce que le rôle des premiers voyageurs qui va être important à cette époque-ci pour montrer le mythe de la barbarie russe. Alors, vous donnez l'exemple, et c'est assez intéressant, vous signalez le voyage d'un Japonais, un capitaine de bateau, qui est contemporain du voyage de l'abbé Jean Chape, qui est paru en 1761. Ouais. Donc, tous les deux ont été en Russie, mais alors les deux voyageurs, ils n'ont pas vu le même pays.
Absolument.
Le Japonais a une neutralité, il décrit ce qu'il voit, ce qui n'est pas le cas du tout du Français.
Absolument. Effectivement, c'était l'astronome Chape d'Autroche qui a été observé une éclipse en Sibérie et qui a fait un long voyage dans les années 1760, comme ça, ouais, 1761.
Oui, son livre sort en 1761, exactement.
Exactement. Et puis, il raconte il fait le récit de son voyage et il voit que des horreurs. Il ne raconte que des horreurs, comment on fustige les gens, on les fouette, enfin, tous les supplices sont décrits avec force détail, etc. Comme si le Russe vivait qu'au Knut. Alors qu'à la même époque, quelques années après, mais enfin à la même époque, c'était sous l'impératrice Catherine II, à la même époque, un marin japonais, un capitaine de navire japonais qui avait fait naufrage du côté des Aléoutiennes, retraverse toute la Sibérie pour venir à Saint-Pétersbourg, voit exactement les mêmes choses, donc vit le même pays, rencontre à peu près les mêmes gens, et parle de la Russie en termes totalement différente.
Lui, il va apprendre
avec
le
sympathie,
russe,
il va apprendre le russe avec sympathie. Il trouve les châtiments comme, pas pire qu'ailleurs, etc., etc. Et donc, ça montre justement cette force du préjugé. D'un côté, l'héritier, l'astronome des Lumières, était tellement imprégné de préjugés anti-russes que tout ce qu'il voit est négatif, alors que le Japonais, qui lui connaissait absolument pas le pays, n'avait pas d'opinion toute préconçue sur le pays, décrit les choses avec une empathie, une impartialité qui frappe. Et c'est vraiment comique d'opposer ces deux textes. D'ailleurs, Madame Carrère-Dancausse en a parlé, parce qu'il y a eu une réaction de Catherine II au livre d'Autroche, de Chape d'Autroche, et Madame Carrère-Dancausse en a raconté cette histoire, mais uniquement du côté français, sans l'opposer à la version japonaise.
Tocqueville va avoir un rôle important dans cette russophobie. C'est quoi ? C'est sa comparaison avec l'Amérique qu'il...
Oui, alors Tocqueville, effectivement, en 1835, dans La démocratie en Amérique, dit qu'il y a deux pays qui sont l'avenir du monde, qui seront les plus importants à l'avenir, c'est les États-Unis d'Amérique et la Russie. Mais pour des raisons différentes. Mais lui penche évidemment du côté américain et fait l'apologie, comme on sait, du système américain, de la démocratie américaine, et au fond oppose cette démocratie à la Russie tsariste qui juge effectivement rétrograde, manquant de corps intermédiaire, c'est-à-dire de ce qu'on appelle aujourd'hui de classe moyenne, etc. Tocqueville est un homme intelligent, disons, on le sait, enfin je veux dire, il n'y a pas besoin de prouver.
Oui, oui, c'est pas le baron de Cutine.
Hein, exactement. Donc, son avis est tout à fait intéressant, mais il se situe, si vous voulez, dans la tradition des libéraux français qui défendent justement l'idée du corps intermédiaire, c'est-à-dire du tiers-État, l'ancien tiers-État ou de la classe moyenne, comme assise de la démocratie libérale de type occidental ou américaine. Et il dit en Russie, justement, comme Montesquieu, ça n'existe pas, et donc c'est un despotisme, ou alors, pire, c'est encore un socialisme. Parce qu'au fond, le socialisme, c'est les classes populaires qui dominent. Et il va y avoir les conservateurs et les libéraux, qui étaient opposés jusque dans les années 1830, vont faire alliance face à la montée en puissance du socialisme, vont s'allier et utiliser la Russie comme contre-exemple. Parce que la Russie sera aussi défendue par certains socialistes comme étant un pays proto-socialiste à cause de la commune russe. Bon, c'est une histoire assez compliquée, mais qui s'inscrit aussi dans l'histoire de la tradition libérale anti-russe française.
C'est ce qui pourrait expliquer un peu l'hostilité anglaise, en dehors, pour des raisons géopolitiques, où dès que quelqu'un est puissant sur le continent, on se met contre lui. Mais c'est vrai que la Russie est un peu la bête noire de l'Europe libérale qui est en train de... Et cette bourgeoisie triomphante qui arrive en Angleterre, c'est peut-être pour ça que les Anglais se méfient énormément de cette Russie.
À mon avis, pas. Parce que les Anglais, eux, si vous voulez, les Français sont battus contre la Russie sur le terrain des idées. C'était les Français, c'est la tradition, grande tradition intellectuelle française. Ça a changé après la victoire de la défaite de Napoléon III. La France est devenue russophile parce qu'elle a besoin d'un allié contre l'Allemagne. Mais jusqu'en 1870, elle était très russophobe. Les Anglais, c'est différent. Les Anglais ont une rivalité purement géopolitique avec la Russie parce qu'ils craignent que la Russie, en pénétrant dans les détroits, dans la mer Noire et en Méditerranée, en Asie centrale, va menacer leur empire des Indes et leur possession en Égypte et leur route commerciale vers les Indes à travers la Méditerranée. Et c'est uniquement ça qui motive les Anglais. La russophobie anglaise, c'est uniquement un conflit impérialiste. Ils ne veulent à aucun prix que les Russes arrivent en Méditerranée. Et la démocratie, dans leur esprit, elle est utilisée comme le font les Américains, au fond. Elle est purement instrumentalisée. C'est un prétexte pour essayer de discréditer la Russie dans le combat, la propagande qui est développée contre la Russie. La preuve que c'est un pur prétexte, c'est que les Anglais soutiennent à fond le sultan ottoman, qui est l'archétype même du despote, comme les Américains soutiennent à fond l'Arabie Saoudite, qui est 100 fois plus antidémocratique et despotique que la Russie actuelle. Donc le discours démocratique est un pur prétexte, et c'est ce qui me scandalise. C'est comment on peut avoir un double standard, aujourd'hui comme hier, soutenir le sultan ottoman anti-chrétien, etc., et qui décapitait ses gens sur la place, ses opposants sur la place les places de Constantinople, alors même qu'on critique la Russie pour son despotisme, alors qu'elle est 100 fois plus avancée que l'Empire ottoman à la même époque. Et c'est cette duplicité, c'est cette, je trouve, trahison au fond de nos valeurs héritées des Lumières que je reproche à l'Occident dans son discours anti-russe.
Alors vous êtes toujours sur les chroniques de la vieille Europe, nous allons faire une légère pause, nous sommes avec Guy Mettant et son livre Russie-Occident, une guerre de 1000 ans, et nous allons avoir cette troisième partie où Guy Mettant va vous expliquer, le livre de Dracula n'est qu'un livre russophobe. On se retrouve dans une poignée de secondes.
De retour dans le studio de Radio Courtoisie pour ses chroniques de la vieille Europe où nous recevons Guy Mettant pour son livre Russie-Occident, une guerre de mille ans, la russophobie de Charlemagne à la crise ukrainienne. Alors on parlait du rôle dans l'Angleterre et alors l'anecdote surprenante l'anecdote est plus que surprenante dans votre livre Guy Mettant, c'est nous venons d'apprendre la mort de l'acteur Christopher Lee, bien connu pour son rôle de Dracula, et j'apprends dans votre livre que le roman de Bram Stoker est un roman russophobe. Alors éclairez-nous sur cette anecdote, mais qui montre bien, je veux dire, l'état d'esprit à l'époque sur les Russes.
Absolument. Donc la russophobie anglaise, comme on l'a vu, s'est développée sur des questions de rivalité géopolitique. Et à Londres, depuis 1815, existait un très puissant lobby impérialiste. Et ce lobby impérialiste a toujours essayé de discréditer la Russie parce qu'il se trouvait en confrontation en Afghanistan. Les Anglais ont mené plusieurs guerres en Afghanistan au XIXe siècle et puis dans les Balkans, aux frontières de l'Europe, surtout en mer Noire avec les Ottomans soutenus par les Anglais. Et à la fin, dans la deuxième partie du XIXe siècle, l'Angleterre est à l'apogée de son expansion impérialiste, mais toujours confrontée à la Russie. Et ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, le romancier anglais Bram Stoker, l'inventeur de Dracula, va puiser, au fond, dans le réservoir de préjugés anti-russes, des caractéristiques du comte Dracula. Par exemple, les vampires. Les vampires, ça vient de l'Est. Et on a retrouvé dans cette zone des Carpates, qui à l'époque était russe, l'origine des vampires. Et certaines caractéristiques de Dracula, c'est l'image même de l'aristocrate russe qui vit de ses rentes, qui fait pas d'investissement productif, et puis qui veut sucer le sang de toujours ce mythe du russe qui veut sucer le sang du bon et brave européen, du bon et brave anglais qui lui naturellement travaille et fait fructifier son capital, etc. Et on retrouve, c'est un américain qui a écrit ce livre, j'avoue que j'ai découvert un peu par hasard, on m'en avait parlé, mais c'est totalement amusant de voir ça. Et quand on lit la presse anglaise impérialiste du 19e siècle, on retrouve contre les Russes exactement le même langage que la presse américaine, que le New York Times en 2015. C'est un copier-coller. Le Times de Londres en 1850 ou en 1887 écrit sur la Russie avec les mêmes mots que le New York Times ou le Washington Post aujourd'hui. C'est fabuleux. Les caricatures du Punch et de la presse anglaise dans les années 1850 caricaturent le tsar comme on caricature Poutine aujourd'hui. Donc c'est les mêmes clichés qu'on voit réapparaître siècle après siècle. C'est fantastique. Comme si rien n'avait changé. Et là, ça pose aussi la question de la lutte contre le communisme que je pose. On y viendra peut-être tout à l'heure. Mais je veux dire, on en parlera tout à l'heure.
Non, parce que justement, la chose surprenante, c'est qu'avec l'arrivée de l'idéologie socialisme, va naître une russophobie, on dira de gauche, et elle vient déjà de Marx et de Engels.
Oui, alors Marx.
C'est assez surprenant quand on connaît par la
Marx
suite.
Marx et Engels, oui, alors ça, c'est un peu une parenthèse, mais effectivement, Marx et Engels étaient très russophobes parce que pour eux, le tsarisme s'incarnait vraiment le régime rétrograde par excellence. Il pensait que l'avant-garde du prolétariat et de la révolution allait venir de l'Allemagne, leur propre pays, ou éventuellement de l'Angleterre ou de la France, mais en tout cas jamais de la Russie. Donc pour eux, c'était le repoussoir absolu. Mais effectivement, il y a beaucoup de socialistes, Proudhon, et d'autres, qui ont au contraire vanté Herzen, qui ont trouvé dans la Russie des vertus socialistes à cause de cette commune russe, ce socialiste primitif, si on peut dire.
En deux mots, la commune russe, parce que c'est peu connu,
oui,
en France.
Oui, parce que la commune russe, au fond, c'est un système où les terres, il n'y avait pas de propriété, c'est une propriété collective des terres. C'est un peu comme les commons en Angleterre au XVIIe siècle, qui ont été après captés par la bourgeoisie et l'aristocratie, c'était des terrains qui appartenaient à tous. Et on se distribuait les champs dans un conseil commun. Un conseil communal, disons, commun. C'était pas, il n'y avait pas une propriété individuelle cadastrée. Ce qui explique d'ailleurs les problèmes de cadastre et explique aussi pourquoi le collectivisme a pu se développer en partie sous l'époque soviétique. Ça reprenait ce type de propriété collective ou indivise, comme on voudra. Et donc, ça a été considéré comme une forme de proto-socialisme, parce que la propriété individuelle n'existait pas, en tout cas pas comme on la connaissait, comme on la connaît ici en Occident.
Et ça, c'est une idée qui va venir. Il va avoir des socialistes, enfin des
oui, alors ça explique aussi le succès de l'Union soviétique auprès de beaucoup de partis, enfin de la gauche, une partie de la gauche européenne après 1917. Ça, c'est certain, effectivement. Ouais.
Parce qu'on a, toujours eu cette tendance à voir le communisme arrivant de la Révolution française, les écrits de Marx, etc. Mais il y a déjà un terreau russe. C'est pour ça qu'il y a...
Oui, il y avait déjà des théoriciens socialistes russes au 19e siècle, effectivement, comme Herzen et comme d'autres. Herzen, parce qu'il a vécu ici en France et en Allemagne et en Suisse au 19e siècle. Non, effectivement, il y a un terreau préexistant, ouais, propre à la Russie. Ouais.
Est-ce que ça explique l'hostilité américaine ? Parce que l'hostilité américaine... On a une tendance à dire qu'elle reprend l'hostilité anglaise.
En partie l'hostilité anglaise et allemande. Peut-être qu'on reviendra sur l'Allemagne.
Qui est plus ambiguë, l'Allemagne.
Elle est plus tardive, surtout, mais elle est plus violente. Parce que les Allemands ont commencé tard dans la russophobie, seulement à partir de toute fin du 19e siècle, début du 20e. Mais effectivement, ils se sont bien rattrapés. Parce qu'avec les deux guerres mondiales, ils n'ont pas été de main morte. Puis surtout avec Hitler, qui a quand même massacré 26 millions de Russes. Enfin, il a fallu... Voilà, la guerre a entraîné la mort de 26 à 27 millions de soviétiques, beaucoup d'Ukrainiens, il faut le dire aussi. Hein. Mais donc les Allemands, ils n'y ont pas été de main morte. Hein. Ils ont fait court, mais disons intense dans la russophobie. Ce qui est intéressant avec l'Allemagne, peut-être c'est ce qui s'est passé après-guerre. C'est eux qui ont inventé au fond cette forme d'ostracisme mémoriel anti-russe dont on a pu voir une brillante démonstration lors du 70e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale au mois de mai. C'est eux qui ont essayé de banaliser, les historiens allemands qui ont essayé de banaliser au fond le nazisme en disant que le nazisme était au fond une conséquence du communisme. Ce qui, à mon avis, est une manière justement de banaliser le nazisme et de remettre la faute sur le communisme, donc sur les Russes indirectement. Mais ça, c'est ce qui amène cette révision de l'histoire qui fait qu'on a pratiquement passé sous silence, qui à mon avis est un scandale incroyable, passé sous silence la contribution soviétique à la libération de l'Europe en 1945. S'il n'y avait pas 26 millions de Russes pour sacrifier, on serait toujours sous régime nazi aujourd'hui. C'est pas les 300 000 Américains qui sont morts entre le débarquement et la chute de Berlin qui ont fait la différence, contrairement à ce qu'on essaie de nous dire, à ce que le nouveau mythe euro-atlantiste est en train d'essayer de nous démontrer. Ni même, je m'excuse pour la France, ni même la résistance française, quelles qu'aient été ses mérites, qui sont indéniables. Mais disons, par rapport au sacrifice des Russes, c'est juste, je ne vais pas dire un détail parce que c'est un mot qui est très... Okay. Non, mais disons, c'est une contribution, mais ça ne pèse... ça pèse pas très lourd.
Ce qui faisait que le général de Gaulle n'a jamais commémoré le débarquement des Américains.
Le général de Gaulle, qui savait de quoi il parlait, qui avait une profonde connaissance de l'histoire, lui était conscient de toute la dette que la France et que l'Europe devaient aux Russes. Il n'a jamais oublié, contrairement à tous ces présidents... Je ne peux pas appeler autrement révisionniste qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui. Ça, c'est aussi quelque chose de profondément choquant.
Revenons un peu en arrière sur l'Allemagne. Ce qui est assez étrange, c'est quand je parlais d'ambiguïté entre les Russes et les Allemands, c'est qu'une grande partie de la diplomatie russe va être d'origine allemande pendant longtemps. Quel va être le déclencheur de ce début d'hostilité envers les Russes ? Parce que ce sont deux pays qui vont...
Effectivement, vous avez tout à fait raison. Les Allemands et les Russes sont toujours très bien entendus. Il y a eu les chevaliers teutoniques, mais c'était au XIIIe siècle. Mais disons, depuis la guerre de 30 ans jusqu'à la fin du XIXe siècle, Allemands et Russes ont pratiquement toujours été alliés. Les tsars et les rois de Prusse ont pratiquement, à une petite exception dans les années 1760, ont toujours été alliés. Donc ils se connaissent bien, ils ont échangé aussi des dynasties, des reines, etc. Ce qui a changé, c'est l'Empire allemand, la naissance du Deuxième Reich en 1870 à Versailles, quoi, dans le château de Versailles, après la chute de Napoléon III. Parce que tout d'un coup émerge au cœur de l'Europe une nouvelle puissance qui est justement qui, très puissante et qui fait que jusqu'à la mort de Bismarck, Bismarck avait toujours voulu garder les équilibres, être très prudente, les Russes, les Français, etc. Mais à la mort de Bismarck, l'Allemagne se sent, au fait de sa puissance, mais se sent enserrée dans ses frontières parce qu'elle n'a plus d'accès aux colonies, les colonies ayant été réparties entre grosso modo les Français et les Anglais. Il n'y a plus de place en Afrique, en Asie pour les Allemands. Pour la faire courte. Et les Allemands se disent, nous, on veut aussi notre part du gâteau. Et là, ils se mettent à développer un discours sur Lebensraum, sur l'espace vital, qui, comme il ne peut plus avoir lieu dans les colonies, qu'ils fixent peu à peu du côté de l'Est, c'est-à-dire dans l'Empire russe, en Ukraine, en Biélorussie, etc. Et c'est là qu'ils situent l'espace vital dont a besoin l'Empire allemand. D'où l'hostilité qui commence à développer de façon très agressive à partir des années 1890 en Allemagne avec les historiens, les intellectuels qui se mettent tous à vilipender la Russie justement pour pouvoir se créer un Lebensraum. On redécouvre les chevaliers teutoniques, les influences allemandes, les émigrations allemandes dans ces territoires pour justifier une expansion de l'Empire allemand au sein de la Russie. Et la guerre, Première Guerre mondiale, les Allemands, par leur propagande, sont convaincus que c'est les Russes qui l'ont déclenché. Pas eux, mais les Russes. Ce qui est amusant a posteriori.
Oui, oui, mais c'est les fameux chemins de fer. Ouais. On avait fait une émission là-dessus. C'est à ce moment-là que la France va profiter pour s'allier. Et c'est vrai que l'alliance franco-russe va être surprenante à l'époque.
Ben oui, parce que pour la France, comme on l'a vu après des décennies de russophobie, c'est un changement complet, c'est un renversement complet. La Russie de Honi devient un allié. On se met à trouver, sous l'influence de Leroy Beaulieu, toutes sortes d'attraits à la culture russe, à l'économie russe. La France investira d'ailleurs massivement en Russie à perte, puisque oui. Malheureusement les emprunts russes ne vaudront plus un clou après la Première Guerre mondiale. Mais enfin, la France redécouvre la Russie, la culture russe aussi, et ça c'est la période, disons, d'idylle entre la France et la Russie qui va durer jusqu'en 1917. Ouais.
Parce que dans la russophobie, il y a toujours ces périodes de calme. On a vu ça.
Oui, ça va, ça vient. C'est jamais un mouvement continu, régulier.
On l'explique comment ça ? C'est dès que la Russie est un peu faible, on se remet à l'aimer.
Oui, je suis même pas sûr. Parce que quand la Russie est faible, ça a été le cas, par exemple, dans la dernière décennie du 20e siècle, après l'éclatement de l'Union soviétique, on aime bien aussi pouvoir s'emparer de ses richesses et de ses ressources. Donc on l'aime bien, mais je pense pas que ce soit lié aux périodes de force et de faiblesse de la Russie. À mon avis, c'est plus un phénomène occidental que russe. La russophobie dépend plus de notre propre comportement que du comportement objectif de la Russie. On peut y revenir, mais c'est assez flagrant, même dans les années récentes, depuis les années 2000.
Alors, autre pays, et là, pas des moindres, qui va concerner le XXe siècle, c'est l'Amérique. En gros, ça commence en 1945, la grosse hostilité.
C'est exactement le même phénomène que pour la russophobie anglaise. Aussitôt la Deuxième Guerre mondiale gagnée par les Russes, avec le sacrifice de millions de Russes, les Américains qui y ont contribué par leurs prêts, par leurs soldats, il n'est pas question de remettre en cause cet apport, eh bien, mais apport marginal au regard des souffrances russes, marginales. 300 000 soldats américains, c'est un sacrifice énorme, mais qu'est-ce que c'est comparé aux 26 millions de soviétiques et aux 15 millions de russes ? Donc, aussitôt la Deuxième Guerre mondiale gagnée, les Américains font comme les Anglais en 1815, se retournent contre leur allié de la veille. Là, sous prétexte de lutte contre le communisme. Ça avait déjà, il y avait déjà eu des alertes depuis 1917, mais les Américains, au fond, s'en étaient pas mêlés. Avant 1945, c'était pas mêlé de lutte anticommuniste. Et là, sous la bannière de l'anticommunisme, les Américains entrent dans la bataille et au fond créent la guerre froide. Alors bon, moi j'ai pas de sympathie spéciale pour le communisme, et je comprends qu'on ait pu lutter contre ce phénomène politique. Mais ce qui est intéressant, c'est que si les États-Unis avaient lutté contre le communisme et non pas contre la Russie, ils auraient dû arrêter leur combat après la chute du communisme. Logiquement, une fois le communisme répudié par les Russes de leur propre chef, c'est eux qui ont mis fin au communisme. C'est eux qui ont, au fond, arrêté le régime soviétique en 1991. C'est personne d'autre. Eh bien, à ce moment-là, les États-Unis et l'Europe occidentale, l'Europe libérale, auraient dû dire, bah, dans ce cas, bienvenue aux Russes. Bienvenue aux Russes dans l'OTAN, bienvenue aux Russes parmi nous. Puisque toutes les 50 ans de lutte étaient contre le communisme. Et c'est là qu'on voit qu'en réalité, de nouveau, il y avait des raisons de lutter contre le communisme, mais il y avait surtout encore une raison plus profonde de lutter contre la Russie. Puisque malgré la disparition du communisme, la russophobie américaine a continué de plus belle. Dans les années, ça a arrêté 5-6 ans, et dès le livre de Brzezinski, Zbigniew Brzezinski, qui a paru au milieu des années 1990.
Ouais, le grand échiquier.
Le grand échiquier, qui dit quoi ? Qui dit qu'il faut démanteler la Russie, il faut séparer ce pays, il faut diviser ce pays en trois parties, une Russie européenne, une Russie centrale et une Russie asiatique. C'est ça que disent les Américains. Il faut absolument conquérir l'Ukraine parce que l'Ukraine est le pivot de la puissance russe en Europe, qu'il faut absolument que l'Occident fasse main basse sur l'Ukraine, mais c'est écrit noir sur blanc. Donc ce qui s'est passé à Maïdan et l'année dernière en Ukraine, c'est juste la réalisation du projet américain en Europe, casser la puissance russe en maîtrisant l'Ukraine. Et ça a été dit 15 ans, enfin, que dis-je, 14, voilà, 18 ans avant Maïdan. Donc, c'est pas une invention, tout est public, il n'y a pas de complot, c'est juste la réalisation d'un programme parfaitement public. Donc, c'est ça qui est intéressant dans cette russophobie américaine, où on voit que la lutte anticommuniste. Et d'ailleurs, il y a des anticommunistes, des théoriciens, des intellectuels qui ont avec leur cœur combattu, avec conviction, combattu le communisme, qui se sont dit, après la fin du régime soviétique, excellent, on a réalisé notre but, maintenant on peut rentrer chez nous. Fini la russophobie. Et eux-mêmes ont repris la plume quelques années après, constatant que malgré eux, cette russophobie continuait, mais pour des raisons géopolitiques et non plus pour des raisons d'anticommunisme. Donc là, il y a aussi un problème qu'on devrait peut-être davantage.
Ce qui est assez bizarre, explorer. C'est que Brzezinski, qui était l'éminence grise de Carter, qui a eu le succès et l'influence sur la politique internationale américaine, reprend en fait une vieille théorie qui était déjà une invention sur l'expansion russe. Les Russes sont très naïfs vis-à-vis des Américains, parce que quand les Américains font « vous en faites pas, les pays, on les mettra pas dans l'OTAN », et en fait, chacun joue son rôle et les Russes se retrouvent un peu
coincés. Les Russes sont sentis complètement floués parce qu'effectivement les Russes avaient l'impression d'avoir fait leur deuxième révolution au XXe siècle après celle de 1917 et puis se sont dit maintenant on va pouvoir faire partie du monde normal, on va nous accepter comme des gens normaux, on va pouvoir avoir droit nous aussi à la démocratie, à l'économie, à la prospérité, etc. Rien de tout cela, puisque je dis la lutte a recommencé quelques années après. Et ils se sont sentis complètement floués. Parce que cette bonne... Enfin, ils ne sont pas non plus idiots, mais je veux dire, c'est quand même avec un certain sentiment de bonne foi qu'ils se sont dit, maintenant, c'est fini. Et c'est comme ça que Gorbatchev avec George Bush père, s'est dit bah, on va quitter l'armée rouge va quitter les pays d'Europe de l'Est, à condition que l'OTAN n'y entre pas. Parce que pour eux, c'était évident, ça allait de soi. Pas du tout. Qu'a fait l'Europe juste après ? C'est d'avancer ses pions avec l'Union européenne sur le plan économique et surtout d'avancer ses pions sur le plan militaire avec l'OTAN. Ce qui aurait été l'Union européenne, c'était acceptable pour les Russes. Vraiment. Les Russes étaient prêts à accepter.
Même Poutine, à un moment, a voulu aller vers une coopération.
Et à la limite, même Poutine aurait été prêt à ce que l'Ukraine entre peu à peu dans l'Union européenne. Mais pas l'OTAN. L'OTAN qui, en plus, avait attaqué en Afghanistan, attaqué en Irak, attaqué en Libye, en trahissant aussi, d'ailleurs, la résolution qui a été votée en 2011 par le Conseil de sécurité. Donc, chaque fois, les Russes sont fait rouler dans la farine. Donc, c'est pas étonnant qu'en 2014, au moment de Maïdan, tout d'un coup, Poutine ait dit non, mais non, ça suffit. Il a tapé du poing sur la table. Il l'a dit à réitérer reprise, mais jamais les Européens, les Américains n'ont voulu écouter. Bon, voilà, maintenant, voilà où ça nous a amené.
Poutine, c'est le méchant idéal, quand même. C'est le vrai russe dans toute sa splendeur, quoi.
Poutine, c'est le méchant parfait. C'est comme Dracula.
Voilà.
C'est l'incarnation même du méchant. Je me suis amusé à faire je conseille d'ailleurs à nos auditeurs d'aller sur Internet puis de taper Poutine couverture ou Poutine magazine ou Poutine covers en anglais. Et vous voyez apparaître mais une masse de tous les magazines, de l'Economist, à Newsweek, à l'Express, vraiment absolument sidérante sur Poutine. C'est toujours Poutine espion, Poutine kleptocrate, Poutine corrompu, Poutine impérialiste, Poutine expansionniste, Poutine anti-gay, Poutine quoi encore. On ne peut pas mettre le mot Poutine sans lui affecté en adjectif dépréciatif. C'est invraisemblable. Et si vous regardez la production américaine, tous les 15 jours, vous avez un livre anti-Poutine qui paraît aux États-Unis. D'ailleurs, qui se cite parmi, qui raconte toujours les mêmes histoires. Poutine mafieux, Poutine. C'est extraordinaire de voir à quel point ce type peut être l'incarnation du mal absolu dans l'imaginaire américain et, je dois le dire, européen, malheureusement, du 21e siècle.
Vous avez, sur la fin de votre livre, vous avez fait un chapitre sur les mots et la grammaire de la nouvelle langue russe.
Anti-russe.
Anti-russe. C'est assez formidable. Par exemple, il y a une petite liste, c'est nous l'Occident et eux les Russes. Alors, nous l'Occident, civilisation, eux les Russes, barbarie. Nous, modernité, développement, eux traditionnalistes, sous-développement, stagnation. Et vous en avez toute une liste qui sont assez drôles, mais en fait, c'est ce qu'on trouve dans la presse occidentale.
C'est ce qu'on retrouve dans les articles. Si vous lisez un article, vous retrouvez ce vocabulaire. Alors, avec des nuances, ouais, des articulations chaque fois différentes, mais tous les articles sur la Russie sont structurés de cette façon-là. Et c'est fascinant. Et justement, j'essaie de montrer non seulement l'élaboration du langage, le choix des mots, mais aussi de tout le discours pour diaboliser la Russie et diaboliser évidemment son président. Archétype du mal absolu. Il est juste avant ou après Kim Jong-il. Alors maintenant, les Iraniens reviennent un peu en grâce. Les Cubains reviennent un peu en grâce. Il reste encore les Vénézuéliens, Poutine et puis la Corée du Nord dans l'axe du mal. Enfin, Poutine tient une très très belle place sur le podium.
Comment expliquez-vous qu'avec tant de russophobie, les Russes qui régulièrement nous font pas une sorte de chantage, mais nous expliquent qu'ils vont aller vers l'Asie et que ce fameux eurasisme, en fin de compte, ils reviennent toujours vers l'Europe.
Les Russes, 95% des Russes, enfin tous les Russes se sentent européens. Si vous allez en Russie, il n'y a pas un Russe qui vous dira « nous sommes asiatiques ». J'entends de culture.
Oui, oui.
Mais effectivement, leur pays se trouve à l'interaction des deux mondes, enfin, entre les deux mondes. Ils ont aussi connu l'invasion mongole, la domination mongole, donc ils connaissent quand même bien la Chine, toujours en confrontation. Enfin. Donc ils savent qu'ils sont à cheval entre les deux sur les deux continents. Et ça fait aussi partie au fond de leur identité, même s'ils sont européens à 95%. Mais effectivement, je pense qu'ils ont raison de tenir compte de leur asianité ou de leur eurasianité. Et je pense qu'ils devraient d'ailleurs probablement l'approfondir et la cultiver pour la synthétiser. Les Russes, au fond, ils n'ont jamais réussi à trancher entre les deux, entre l'Europe et l'Asie. Alors qu'ils viennent des deux. Comme un Suisse, pour prendre mon pays, on est à moitié allemand, à moitié français, à moitié italien. Nous avons ces trois cultures dans nos gènes. Les Russes, ils en ont deux. Mais ils n'ont jamais réalisé, ils ne sont jamais tout à fait parvenus à métaboliser cette double appartenance. Pour moi, ils sont tantôt trop européistes, donc naïfs vis-à-vis de l'Europe, ou trop asiatistes comme une contre-réaction, une réaction au fond à cette Europe qui les rejette. On est un petit peu dans cette humeur-là ces temps-ci. Mais je souhaite que la Russie, au fond, arrive à intégrer, à métaboliser leurs deux composantes génétiques ou culturelles, comme on voudra.
Et cette idée que, chez certains intellectuels universitaires russes, d'eurasisme, que Poutine a un peu repris comme ça, mais...
Oui.
Est-ce que vous voyez vraiment à fond de quelque chose se mettre en place
Oui, alors c'est vrai qu'en réaction à l'ostracisme occidental et à l'hostilité américano-européenne, Poutine s'est tourné vers la Chine notamment et vers les BRICS, les pays du Brésil, Afrique du Sud et Inde également, à part la Chine. Parce qu'ils sont, maintenant j'ai l'impression que Poutine est convaincu qu'il n'a pratiquement plus rien à attendre des Européens et des Américains. Il se fera de toute façon diaboliser et mettre au banc comme c'est le cas dans la presse. Et au fond, il n'attend plus grand-chose de notre part. C'est malheureux parce que la France, qui aurait eu un énorme rôle à jouer, a totalement abdiqué son rôle international, à mon avis, avec la Russie. Et c'est fort dommage. Donc là, Poutine s'est retourné vers la Chine parce qu'il lui faut des partenaires. Il doit vendre son pétrole. Et s'il ne peut pas le vendre aux Européens parce qu'ils ne veulent pas construire de pipeline, eh bien, il faut bien qu'ils trouvent d'autres clients. Et ces clients, ben, sont en Asie. En plus, je trouve, c'est bien. C'est là que ça se passe au point de vue économique. Donc, voilà. Mais il ne l'a pas fait par choix. Il l'a fait par nécessité. Parce que je reste convaincu que les Russes, au fond d'eux-mêmes, seront toujours européens. Et c'est pour ça que c'est absolument détestable et malheureux qu'on les repousse comme ça.
Guy Mettant, vous
c'est nous qui les avons repoussés dans les bras des Chinois. Ça ne s'est pas fait par choix.
Vous venez de Suisse, est-ce qu'on retrouve un peu la même mentalité en Suisse, cette méfiance, cette russophobie
Oui, les Suisses, pour ça, n'échappent pas à la tendance globale européenne. Quand j'avais fait une étude, il y a déjà une dizaine d'années, sur l'image de la Russie en Suisse et l'image de la Suisse en Russie, et c'était fascinant de constater que les Russes étaient mal vus par les trois Suisses sur quatre, alors que les Russes avaient une image hyper positive de la Suisse, à raison aussi de trois Russes sur quatre. Donc il y a une parfaite opposition dans la perception. Mais je dirais que l'avantage de la Suisse, peut-être, je connais quand même bien la France, par rapport à la France, c'est que nous avons l'habitude de travailler entre minorités. On a une espèce de respect des opinions minoritaires, que ce soit des opinions politiques ou des opinions culturelles, enfin bref, des sensibilités différentes, parce que c'est au fond notre pays qui est comme ça. Donc c'est peut-être plus facile on est moins étiqueté. Ici, bon, ça n'a pas empêché un magazine de titrer sur les amis de Poutine en mettant ma photo, mais ça, je m'y attendais, puisque dès qu'on fait mine de pas répéter la vulgate dominante, enfin anti-russe dominante, on est tout de suite traité comme un ami de Poutine. Bon, ça m'est égal. Voilà. Mais en Suisse, peut-être, c'est plus facile de trouver des chemins d'expression aussi, l'accès aux médias, parce que les grands médias français ou américains sont absolument fermés à ce type de... Alors peut-être, je ne sais pas, peut-être ce livre arrivera à percer cette cuirasse, je l'espère, mais disons, je ne me fais pas une grande illusion.
Est-ce qu'aujourd'hui, la seule solution pour les Russes, enfin si c'est pour reprendre un dialogue, ce qui n'est pas sûr qu'ils en aient envie avec l'Occident, c'est que Poutine parte, ou est-ce que ça ne changera pas grand-chose?
Ça ne changera rien du tout. Puisqu'on a vu que Nicolas Ier était déjà caricaturé comme un despote sanguinaire, barbare, expansionniste, qui voulait bouffer la Pologne et tutti quanti. Il y a un siècle, il y a plus d'un siècle, un siècle et demi, donc ça ne changera pas. Quand Poutine sera loin, si son successeur continue une politique de, disons, d'indépendance nationale russe, il sera conspué de la même façon. Ça a été le cas des dirigeants tsaristes, soviétiques et maintenant des présidents actuels. Et je dirais, quel que soit le degré de démocratie de la Russie, on trouvera toujours des défauts, on trouvera toujours des reproches à faire. Il y aura toujours, quelque part en Tchétchénie ou sur un pont de Moscou, quelqu'un qui va se faire flinguer et on va attribuer ça au méchant Poutine.
Donc, oui, voilà. Par exemple, vous parliez du terrorisme, il y a toute une partie, on n'a pas pu parler de tout le livre, il y a toute une partie sur la façon où on a parlé de l'actualité du terrorisme en Russie aux États-Unis.
Oui. Dès qu'il y a un attentat quelque part en Russie, on soupçonne la main du Kremlin d'être à l'origine de l'attentat. Mmh. Alors que s'il y a un attentat à Boston, on ne va pas accuser Obama d'être à l'origine. Donc c'est surréaliste quand on y réfléchit. Mais c'est un réflexe de Pavlov, de nos médias, de réagir ainsi, sans même essayer d'analyser ou de trouver d'autres explications. Quoi. C'est fascinant.
Voilà, bon, on est en train d'achever tranquillement. Il nous reste encore une poignée de minutes, me dit le technicien. Peut-être une petite conclusion, guillemettant. Ce livre, au départ... On va revenir au départ. L'idée, c'est quoi? C'est d'essayer de faire comprendre un peu mieux, ou vous n'y croyez pas, ou c'est simplement un témoignage?
Non, c'est quand même d'expliquer tout ce qui est, tous les fondements. Il y a deux choses. C'est d'expliquer les fondements de la russophobie en Europe, dans l'espoir que les Européens changeront d'avis. Après tout, les Français ont changé d'avis sur les Allemands après deux guerres mondiales et puis une guerre en 1870, donc trois guerres. Donc ça a été possible. Et je me dis, pourquoi pas? Tout d'un coup, l'Europe ne se réveillerait-elle pas? Puis se dirait, mais ce qu'on est en train de faire, c'est absurde. Se mettre dans la main des Américains, laisser un conflit gangréner le centre de l'Europe en Ukraine, c'est ridicule. Il faut qu'on mette fin à ça. Pourquoi pas? Ça se produit entre la France et l'Allemagne. Peut-être ça pourrait se reproduire. On ne le sait pas. Dans les décennies qui viennent entre l'Europe occidentale et la Russie. Ça, c'est ce que je souhaite. Puis la deuxième chose, moi, je suis journaliste. 35 ans que je travaille dans le journalisme. J'essaie de faire mon travail le plus honnêtement possible, au-delà des étiquettes, au-delà des préjugés. Et je me dis, nous autres journalistes, on a un sérieux travail à faire pour retrouver un peu d'impartialité, un peu d'objectivité, un souci de confronter des opinions différentes, de montrer, je crois que les gens, c'est comme ça que je le ressens et c'est peut-être aussi ce qui fait le succès de cette inattendu de cet ouvrage, les gens en ont marre de la pensée unique, en ont marre d'opinions toutes faites, ils ressentent quand vous dites la vérité ou vous en approchez ou quand vous récitez, quand vous parlez avec la langue de bois usuelle. Et c'est aussi un appel à mes confrères en disant, mais essayons de réfléchir et non pas de réciter ce qu'on nous demande de réciter. Quoi.
J'ai l'impression, au départ, vous faites un petit bilan, clairement, de votre carrière de journaliste. J'ai l'impression que les choses se sont dégradées dans la presse. Cette précipitation de l'événement fait que...
Mais là, je n'accuse pas non plus. Moi, je suis solidaire avec ma profession. Notre profession a été victime d'une fragilisation inouïe depuis 15 ans avec l'arrivée des nouveaux médias, des réseaux sociaux, etc. Et c'est vrai que les journalistes travaillent dans un sens de dans l'urgence toujours, n'ont plus les moyens, au fond, de bien faire leur travail. Mais disons, même si les conditions de travail sont dégradées, ce que je dis, c'est que dans notre tête, on peut continuer à essayer de réfléchir comme il faut, parce que là, il n'y a pas besoin non plus de grands moyens financiers. C'est un peu ça, deuxième appel que j'essaie de lancer avec ce livre.
Merci Guy Bétan. Peut-être une prochaine actualité, un prochain livre, ou alors vous allez continuer la politique, le journaliste un peu plus loin.
Oui, non, je continue toujours, j'écris toujours pour différents journaux suisses. Je pense à un prochain livre, peut-être sur l'Europe et l'Allemagne, notamment. Donc, tout à fait, toujours des projets. Je voyage aussi beaucoup, notamment... en Chine, je retournerai en Russie, en Mongolie cet été. J'essaie de voyager pour voir un petit peu l'effervescence qui règne dans le reste du monde et dont on n'a souvent pas forcément conscience chez nous en Europe.
Merci à vous. Je rappelle le titre de votre livre, Guy Bétan, Russie-Occident, une guerre de 1000 ans, la russophobie de Charlemagne à la crise ukrainienne. Pourquoi nous aimons tant détester la Russie? C'est aux éditions des Sirtes. Nous, on se retrouvera... Alors, cette émission, bien sûr, est enregistrée et donc vous n'avez pas pu passer vos messages. Nous sommes désolés. On se retrouvera pour le mois de septembre, bien sûr, en direct avec Philippe Christel et Pascal Essérick. Vous pouvez trouver actuellement le dernier numéro d'Éléments qui est sorti, qui est bien sûr notre collaborateur avec Pascal Essérick, qui est en série rédacteur en chef, et restez toujours sur Courtoisie avec toute l'équipe de la Vieille Europe.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la nuit de la vieille Europe dirigé par Patrick PL. Émission préenregistrée le 16 juin 2015 et diffusée pour la première fois mardi 23 juin 2015 de 21h30 à 23h. Il est également diffusé jeudi 25 de 21h30 à 23h également, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal a été réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix fonds de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.